Le second volet de notre étude est consacré à notre témoignage pratique devant le monde. Alors je vous dis tout de suite, j'ai inclus des dizaines de versets bibliques dans mon propos, mais pour vous éviter de tourner les pages de vos Bibles et pour gagner du temps, je l'avoue, je les ai directement inclus dans mon texte. Alors voilà de quoi, comment j'ai envisagé cette intervention. Tout d'abord, je définirai quelques mots dans le Nouveau Testament qui désignent le monde. Et puis je m'attacherai à distinguer deux mondes particuliers dans lesquels nous sommes appelés à vivre. Le monde créé et aimé par Dieu et le monde organisé et momentanément contrôlé par Satan. J'en tirerai une première conclusion, c'est que nous avons une attitude un peu difficile dans ce monde. Parce que comme le Seigneur le dira, nous sommes à la fois dans le monde sans être du monde. Je m'attacherai alors à déterminer comment Dieu voit ce monde organisé par Satan. Il est déjà jugé et nous en tirerons quelques caractéristiques. Pour mieux nous y positionner, avec quelques conseils spirituels, une certaine ligne de conduite, dont nous avons déjà eu quelques aspects par notre frère Élie Vigneault, et puis un chapitre beaucoup plus pratique, avec notre positionnement selon des besoins qui nous sont propres dans ce monde. Et enfin, une conclusion. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, comment le mot « monde » est-il défini ? Mais il y a trois mots. Il y a le mot « cosmos », il y a le mot « aion » et il y a le mot « oikoumene ». C'est le mot « cosmos » qui est le plus important. Il désigne à la fois la terre, le monde créé par Dieu. En acte 17, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Il y a le monde des humains que Dieu veut sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a le monde organisé et momentanément contrôlé par Satan, selon cette conclusion de l'Épître aux Éphésiens, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air et de l'esprit. Le second mot qui désigne le mot monde, c'est le mot aion, dans le sens de siècle ou de période de temps. Alors c'est soit le siècle actuel, le temps présent. Galates 1, verset 4, « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. » Ou alors le siècle à venir, le siècle futur, l'autre monde, Éphésiens 1, verset 21, « Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. » Et enfin, un troisième terme, oikoumene, qui désigne la terre habitée tout entière. En Matthieu 24, verset 14, cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière. Nous nous attarderons sur le monde créé et aimé par Dieu et le monde momentanément contrôlé par Satan. Le comportement du chrétien dans ce monde, il est empreint de bipolarité, je dirais. Tout d'abord, un aspect positif. Dans la première épître de Jean au chapitre 4, Dieu est amour et en ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans la première épître de Timothée au chapitre 2, Dieu, sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a un aspect négatif. Nous savons, nous dit Jean dans sa première épître, que le monde entier gît dans le méchant. Et Jacques ajoute, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Par conséquent, comment vivre dans un tel monde? Bien, il y a deux mots qui nous viennent à l'esprit, séparation d'une part et mission d'autre part. Séparation, parce que Jean nous le rappelle, n'aimez pas le monde ni les choses qui y sont, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, car le monde s'en va et sa convoitise. Mais d'un autre côté, le Seigneur nous maintient dans un tel monde. Dans sa fameuse prière, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17e, il s'adresse à son Père et il lui dit « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. » La position du chrétien, c'est donc d'être à la fois dans le monde, sans être du monde. Alors, comment y vivre? Certains nous encouragent à nous y engager totalement, franchement, et ils nous disent « mêlez-vous à la foule, pêchez là où sont les poissons, et non pas dans un seau ». D'autres sont plus circonspects, et ils émettent de sérieuses réserves. « Éloignez-vous des non-croyants qui risquent de vous contaminer et de vous souiller ». Il est utile ici de se rappeler que les Saintes Écritures ne prêchent pas l'isolement hermétique du monde, mais une séparation morale et spirituelle. Le meilleur exemple qui nous soit donné dans la parole de Dieu n'est-il pas le Seigneur Jésus lui-même? Il s'est impliqué totalement en vivant au milieu des pécheurs, tout en se séparant moralement d'eux. « Lui qui n'a pas commis de péché », nous dit Pierre dans sa première épître. Les pharisiens eux-mêmes reconnaissaient le fait, puisqu'ils rendaient ce témoignage, il reçoit les pécheurs et il mange avec eux, Luc 15. Et Pierre, plus tard, nous en fournira la raison. Jésus a passé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa propre puissance. Conclusion, tout en n'étant pas du monde, nous sommes dans le monde pour y remplir une mission. C'est le Seigneur Jésus qui nous y engage. Allez dans le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Ainsi, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, nous sommes effectivement ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Notre témoignage ici-bas doit par conséquent se manifester par une séparation morale empreinte de grâce, tout en évitant un isolement hermétique, tel que, par exemple, comme dans certaines communautés chrétiennes, vivre en ermite ou vivre dans une retraite monastique, ce qui annulerait notre mission primordiale, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Le défi pour le chrétien est simple, mais il est de taille et peut se résumer entre ces deux pôles par son comportement, dont notre frère Élie a évoqué certains détails. Va-t-il amener son prochain dans l'Église ou va-t-il se laisser entraîner par son interlocuteur dans le monde? C'est un enjeu important que l'on retrouve dans toutes nos relations sociales et en particulier dans le cadre des mariages mixtes entre chrétiens et non-chrétiens. Mais là, je laisserai la parole à notre frère Philippe qui en parlera probablement. Donnons une rapide description du monde dans lequel nous vivons. Tout d'abord, sachons bien, en tant que chrétiens, que ce monde, il est déjà jugé. Tout ce qui est dans le monde n'est pas du Père, 1 Jean 2, verset 6, et il est déjà jugé, Jean 12, verset 31, « Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. » C'est Jésus lui-même qui le dit, et il le dit déjà bien avant sa mort et sa résurrection. Donc dans l'Esprit de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, il est déjà jugé. Premier avertissement pour nous, chrétiens, puisque le monde est déjà jugé, et puisque son chef est déjà condamné, qui est notre chef? Qui dirige ma vie? Il n'y en a qu'un seul, dit Jésus, car nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et quand bien même quelqu'un s'y risquerait, le résultat est néfaste et la condamnation du Seigneur tout aussi évidente. Apocalypse chapitre 3 verset 16, ainsi parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Quelles sont les caractéristiques du monde? Tout d'abord la sagesse du monde. Mais la sagesse du monde prétend que le message de la croix n'est que folie. En effet, il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie ?» Et Jacques peut ajouter que la sagesse terrestre est animale et diabolique. L'esprit du monde dans lequel nous vivons est en opposition directe avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune compromission possible. Nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Ainsi le papillon désirerait-il redevenir chenille? Ainsi l'homme libre désirerait-il redevenir un prisonnier? Prenons garde, car l'esprit de ce monde est envahissant et étouffant. Il suffit de se rendre compte par l'abondance des masses médias, par l'omniprésence de la musique, là où nous faisons nos courses par exemple. Nous sommes continuellement envahis de ces choses pour essayer de nous distraire. Demeurons attachés à la parole de Dieu et à son esprit. C'est d'ailleurs une requête de Jésus dans sa prière sacerdotale, parlant à son Père, « Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. » La philosophie de ce monde, méthode de réflexion, méditation transcendantale, recherche du bonheur, illusion de bien-être constituent autant de dangers et de pièges aux mains de l'ennemi. Là encore, un avertissement de l'apôtre Paul aux Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments de ce monde, et non selon le Christ. Même une certaine forme de philosophie religieuse peut être tentante, car elle présente la vie chrétienne comme Christ avec autre chose, ce qui est tout à fait contraire à la parole de Dieu qui nous présente Christ et Christ seulement. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, Christ, Jésus. 1 Timothée 2,5. Et il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés, à savoir le Christ, Jésus. Acte 4, verset 12. Autre thème, l'amitié du monde. L'amitié du monde, elle est délétère et destructrice, car il est dit de Jésus qu'il fut un ami des publicains et des pécheurs, mais jamais il ne l'est dit que Jésus fut l'ami du monde. Car quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. En vivant dans le monde, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. À la différence de Satan, qui, lui, se fait servir, se sert, prend les âmes pour les emprisonner définitivement. Autre thème, les choses du monde. Les choses du monde éloignent inévitablement loin de Dieu et sèment la mort. On a déjà dit, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, qui sont du monde et le monde s'en va. La mondanité nous guette de toutes parts, philosophiquement, intellectuellement, charnellement, professionnellement et même spirituellement. L'orgueil du ministère, l'orgueil de la grâce, la prétention de détenir la vérité, les querelles de berger. N'oublions pas la tactique favorite de Satan, diviser pour mieux régner. Chacun est tenté et attiré par, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort, Jacques 1, verset 14. Satan peut même se déguiser sous différentes formes, soit il est le séducteur, le corrupteur, c'est le serpent ancien, soit il est l'adversaire direct et visible contre lequel nous luttons, c'est le lion rugissant, soit c'est le falsificateur, c'est le menteur, c'est le trompeur, c'est l'ange de lumière, et le Seigneur nous met en garde, il y aura même des loups dans la bergerie. Enfin, l'homme moderne, qui se prétend moderne, Salomon affirmait déjà en son temps, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1, verset 9. Ainsi, dès les premiers temps de l'humanité, l'homme a voulu s'élever jusqu'à Dieu, souvenons-nous de la tour de Babel, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom. L'homme moderne emprunte le même chemin, il épouse le même concept. La philosophie du Nouvel Âge, le New Age par exemple, a cette même théorie. L'homme se suffit à lui-même et veut devenir un Dieu. Quelle différence avec notre Dieu qui lui s'est fait homme, la parole de Dieu devint chair et habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique, venu de la part du Père. Les corollaires de l'homme moderne apparaissent alors dans toute leur fausseté. Tout ce que produit l'homme se révèle être, si pas supérieur, au moins égal de Dieu. Ainsi la science pensait pouvoir tout expliquer et tout améliorer, mais nous réalisons que c'est un danger dans lequel le chrétien ne peut pas tomber. Alors, quelles sont les directives essentielles? Comment vivre dans un tel monde où nous le sentons bien, tout est dirigé par Satan pour nous éloigner, pour nous faire tomber, pour nous distraire? Eh bien, quel rapport les chrétiens doivent-ils entretenir avec un tel monde? Dans quelle attitude convient-il d'adopter ici-bas où le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules? 2 Corinthiens 4, verset 14. Il sera précieux en priorité de connaître la parole de Dieu, de la lire, de s'en imprégner, d'être capable de résister, comme le Seigneur Jésus qui, au cours des trois tentations qui nous sont révélées au début des évangiles, a toujours utilisé la même formule, « Il est écrit ». Prenons donc acte de cette attitude du Seigneur Jésus et suivons déjà quelques conseils judicieux. 1. Ne vous conformez pas au présent siècle, Romains 12, verset 2. 2. Dans la recherche du parfait équilibre, toutes choses sont utiles, mais toutes choses ne sont pas avantageuses, toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas, 1 Corinthiens 10, verset 23. La ligne de conduite générale sera donc celle-ci. Soyons fidèles à Dieu et sobres quant au monde, étant de ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe, 1 Corinthiens 7, verset 31. Prenons l'exemple de Noé, qui vivait dans une société épouvantable, certainement semblable à la nôtre aujourd'hui, au début du 21e siècle, car toute l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que méchanceté en tout temps, Genèse 6, verset 5, et malgré cet environnement néfaste, Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps, Noé marchait avec Dieu, Genèse 6, verset 9. Voilà la position du chrétien. Alors, quelques exemples pratiques pour essayer de définir de quelle meilleure manière être luminaire dans ce monde, parce que c'est le but. Jésus disait de lui-même en Jean 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et à nous, il nous dit, et cela a été lu en commençant, « Vous êtes, nous sommes la lumière du monde. » Il faut donc à la fois user du monde sans en abuser, c'est-à-dire témoigner dans le monde tout en étant séparé moralement du monde. Ayant reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous conduit dans toute la vérité, Jean 16, verset 13, nous sommes libérés de l'esprit pervers du monde et nous pouvons y marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Philippiens 2, verset 15, « Afin que vous soyez sans reproche, purs, irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans ce monde. » Alors, lorsque nous nous posons la question de nous définir nous-mêmes, le Seigneur l'avait posé à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Mais essayons peut-être de nous définir nous-mêmes face à ce monde, ou plutôt, écoutons peut-être nos contemporains, nos voisins, essayer de nous dire comment ils nous perçoivent. Il est vraiment dommage et dommageable qu'en général, le comportement du chrétien se définisse toujours en termes négatifs. Ne pas. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Quelques exemples. Bon, moins bon, mauvais, dans le manger, tu ne mangeras pas de sang. Dans la boisson, tu ne boiras pas d'alcool. Le chrétien ne fume pas. Dans l'esthétique, j'ai connu en Roumanie des communautés chrétiennes où on ne portait pas la barbe ni la moustache. Les hommes, les chrétiens, ne portent pas les cheveux longs. Les femmes, pas les cheveux courts. Le chrétien ne se maquille pas, ne porte pas de bijoux. Concernant les loisirs, le chrétien ne peut pas faire du sport de haut niveau. Le chrétien ne va pas au café, le chrétien ne va pas au dancing, le chrétien ne va pas au cinéma, le chrétien ne va pas au théâtre, le chrétien ne va pas au concert. Le chrétien, au début du XXe siècle, ne pouvait pas faire de vélo, notamment pour les femmes, parce qu'elles montraient leurs chevilles. Le chrétien n'utilisera pas la voiture. Le chrétien n'a pas de radio, le chrétien n'a pas de télévision. Le chrétien ne travaille pas le dimanche. Le chrétien ne fait pas de politique. Le chrétien ne peut pas faire partie d'un syndicat. Le chrétien ne vote pas. Est-ce vraiment comme cela que le monde nous perçoit, si négativement? Ne serait-ce pas, même inconsciemment, une forme de pharisaïsme? Paraître au lieu d'être? Les propos du Seigneur à cet égard sont éloquents lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, verset 28. Évitons de ne laisser autour de nous qu'un témoignage si négatif. Souvenons-nous de la manière positive avec laquelle le Seigneur a si bien résumé tous les « ne pas » des 10 commandements, il y en a 8 sur les 10, par une formule positive « tu aimeras ». Veillons à répandre autour de nous cette marque de l'amour en réponse à l'interrogation si pertinente d'un petit prophète insuffisamment lu et médité, le prophète Michée, qui a vécu 750 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu? Michée, chapitre 6, verset 8. Alors abordons maintenant quelques comportements généraux du chrétien dans ce monde. Une anecdote pour commencer. On m'a rapporté, au début des années 70, un mariage entre un Hollandais et une Française, ou l'inverse, je ne me souviens plus, un Français et une Hollandaise. Et à l'occasion de la cérémonie qui a suivi, à l'occasion du repas, Eh bien, les Hollandais étaient vexés de voir les Français boire du vin, et les Français étaient vexés de voir les Hollandais fumer. Ils étaient tous chrétiens, ils étaient tous au Seigneur. Mais voilà, attitude différente et attitude qui vexe. Alors j'ai classé notre attitude dans ce monde en trois chapitres, ce que j'ai appelé les besoins essentiels, la nourriture, la boisson, l'habillement, les besoins relationnels, nos amis, le mariage, la société, et ce que j'ai appelé les besoins existentiels, c'est-à-dire notre relation avec l'existence de par le travail ou de par les loisirs. Tout d'abord, les besoins essentiels, manger et boire. Dans l'Ancien Testament, il y a bien évidemment la distinction entre animaux purs et animaux impurs de Lévitique 11. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens qui s'y appliquent, sauf peut-être, je pense, dans certaines communautés adventistes. Nous ne jugeons pas. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit tout simplement sous la plume de l'apôtre Paul aux Corinthiens, « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie », sauf, il y a toujours cette recommandation d'acte 15, « Ne pas manger les choses sacrifiées aux idoles, le sang et ce qui est étouffé. » Conclusion, nous avons une grande liberté dans notre nourriture, mais attention, l'abus nuit en tout. Ne tombons pas dans l'excès d'un Corinthiens 15, verset 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Faisons garde aussi à la recommandation de Philippiens 3, 19, « Les ennemis de la croix du Christ, dont le Dieu est le ventre et dont leurs pensées sont aux choses terrestres. Ne faisons pas de notre ventre un Dieu. » Les effets néfastes de cette nourriture abusive ou restrictive, c'est soit la boulimie, l'excès de poids, l'anorexie, nous en connaissons les effets néfastes. Boire. Dans l'Ancien Testament, il nous est recommandé « Vous ne boirez pas de vin ni de boisson forte » Lévitique 10, verset 9. « Car le vin est moqueur, la boisson forte tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. » Proverbe 20, verset 1. Exemple, dans des communautés chrétiennes, de manière très louable et très compréhensible, on ne boit jamais de vin, tout simplement parce qu'ils se sont occupés d'évangéliser d'anciens alcooliques. C'est le cas notamment de nos frères et sœurs de l'armée du salut, dont les officiers ne boivent jamais de vin, en l'occurrence pour cette raison-là. Dans le Nouveau Testament, la ligne directrice est plus ou moins adouci, ne vous enivrez pas de vin avant d'être ivre. Il faut qu'il y ait abus, vous en conviendrez bien. En quoi il y a de la dissolution, Éphésiens 5, verset 18. Toutefois, verset bien connu, l'apôtre Paul écrivant à Timothée, ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Conclusion. Que boire ? Des boissons alcoolisées ? Qui n'a jamais bu un petit apéro ? Un petit verre de vin ? Un petit digestif ? Mais attention, pour ceux qui prennent la route, tolérance zéro. Les dangers sont évidemment les excès. L'excès nuit en tout, parce que l'excès produit une perte de la maîtrise de soi, l'inconscience, la déchéance. Les effets néfastes, c'est l'alcoolisme exacerbé. 1 Pierre 4, verset 3, « Alors que nous marchions dans la débauche, l'ivrognerie et les excès dans le manger et dans le boire. » Méfions-nous aussi des boissons énergisantes, le café avec sa caféine, le Coca-Cola, caféine, le thé, théine. Pourrait-on s'en passer ? En bon belge, j'aurais du mal de me passer du café du matin. Mais attention de ne pas glisser trop loin, serait-ce la pente douce, la pente vers les drogues douces, sans parler de certaines boissons dangereuses, telles que cocktail, alcool, plus énergie, les boissons Red Bull, etc. Petite parenthèse sur la cigarette. Fumer, nous n'avons aucune allusion directe dans la Bible. pas d'interdiction formelle, mais souvent on cite « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il faut savoir que certains ont fait de leur paquet de cigarettes un Dieu. Et autre verset à mettre en exergue, 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, donc, par corollaire, ne le détruisons pas, car la cigarette détruit les voies respiratoires. » Mais là encore, soyons équilibrés, usons de souplesse. Une tolérance équilibrée doit éviter impérativement toute dépendance excessive. Voyons plus loin le danger de la cigarette. C'est pour nos jeunes et moins jeunes. C'est d'une part d'en devenir tout à fait dépendant et d'autre part de glisser vers la toxicomanie, les drogues, fumer du hashish, marijuana, LSD, opium, etc. La tenue vestimentaire. Portons-nous des habits normaux ou excentriques, classiques ou démodés, décents ou indécents, raisonnables ou superflus, chics ou choquants. Le but originel, c'était de couvrir la nudité, conséquence du péché, car c'est l'Éternel qui fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et qui les en revêtit, Genèse 3, verset 11. La mode vestimentaire est laissée à l'appréciation de chacun et de chacune dans le respect de la volonté divine à notre rapport avec, soit l'adaptation au milieu, on ne vient pas dans une église ou dans une salle de réunion chrétienne comme on irait à la piscine ou à la plage, et vice-versa. Nous le concevons bien. Concernant notre rapport avec l'argent, concernant la décence élémentaire, un verset que l'on cite souvent pour nos épouses, mais que nous devons faire une application pour nous-mêmes, 1 Timothée 2,9, que les femmes, et j'ajouterai, et les hommes, se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie. Le cas particulier, le pantalon. Deutéronome 22,5, la femme ne portera pas un habit d'homme et l'homme ne se vêtira pas d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dans l'esprit dans lequel Dieu donne cette recommandation à son peuple, c'était pour se différencier des coutumes locales d'antan. Or, où se trouve le peuple d'Israël ? Il va rentrer dans une contrée où le culte païen était déterminé par la prostitution sacrée. Ce que Dieu voulait donc, c'était de mettre à l'écart son peuple pour qu'il montre d'une manière claire et évidente la meilleure manière d'honorer Dieu. Tous les cultes païens de l'époque manifestait la prostitution sacrée. Les hommes se déguisaient en femmes, vice-versa, et la condamnation que Dieu voulait mettre en évidence, c'était la condamnation de toutes les pratiques sexuelles anormales, homosexualité, transsexualité, et j'en passe. De plus, pour nous, sur le plan spirituel, ce verset a une valeur exemplaire. Il est dit de nous référer à l'ordre de la création. 1 Corinthiens 11, verset 3, « Le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. » Si nous voulons faire une application de ce verset de Deutéronome 22, verset 5, c'est sur le plan spirituel, dans le cadre de l'Église et de nos rassemblements, qu'il faut aller le placer. Il faut que dans nos Églises, sur le plan spirituel, l'ordre de la création soit maintenu. Ne s'agit-il pas donc de rappeler les responsabilités particulières de chacun dans nos églises ? Or, qui trouvons-nous, parfois, trop souvent, des hommes femmelettes et des femmes patrons ? Il faut remettre les choses à leur place. Deuxième thème, les besoins relationnels, nos amitiés, le mariage, la société. Au niveau de nos amis, nous pouvons posséder beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, mais finalement, c'est sur les doigts d'une main que l'on compte ses vrais amis. L'ami aime en tout temps, nous dit le livre des Proverbes. Et l'homme qui a beaucoup de compagnons va se ruinant, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Il nous est donc recommandé d'être très prudents dans nos relations, dans nos amitiés, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Concernant le mariage, dès le début des Saintes Écritures, nous avons ce verset clé, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair ». Cette définition du mariage est si importante qu'elle est rappelée 3 fois dans le Nouveau Testament, mais nous réalisons que tout est clairement détaillé dès le départ. Il est question de monogamie, l'homme, sa femme, non pas ses femmes. Il est question d'hétérosexualité, père, mère, homme, femme, et il y a un processus à respecter, quitter son chez-soi, s'attacher à son épouse et devenir une cellule familiale. Concernant la société dans laquelle nous vivons, quels sont les rapports normaux? Il faut un respect absolu de l'autre, quelle que soit la place occupée dans la société et dans l'amour. Romains 13, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. L'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Il a été soulevé quelques notions de détail dans la première partie, payer ses impôts, ne pas fuir à l'étranger. Nous avons actuellement en Belgique un afflux de vos compatriotes, mais voilà, la parole de Dieu nous dit autre chose. Le danger dans la société dans laquelle nous vivons, c'est encore une fois ce que Satan a inventé. La technologie moderne, il faut pouvoir la maîtriser. Satan a développé les fameux réseaux sociaux, GSM, portable, texto, Internet, Facebook, Twitter, Skype, etc. J'en passe et des meilleurs. Attention à la perversité de Satan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, loin de là. Encore une fois, soyons équilibrés, sobres. Mais Satan induit toujours l'homme en erreur. Sous prétexte de rompre sa solitude et de répondre à ses besoins relationnels, en mettant à sa disposition tous réseaux sociaux apparemment utiles et agréables et très faciles d'accès pour les jeunes et dès le plus jeune âge, le piège est d'en abuser et d'en devenir rapidement esclave. Nous avons une connaissance à Bruxelles qui en est véritablement esclave. On reste cloîtré chez soi, on joue des nuits entières, on ne dort plus, on ne se nourrit plus, on meurt lentement. Quand ce n'est pas la famille qui explose, parce que le mari et la femme sont chacun devant leur ordinateur, ils font des connaissances malvenues et on file droit au divorce. Le rapport avec les autorités, bien, deux mots-clés, soumission et bienveillance. La soumission, nous la trouvons dans Romains 13, encore une fois, que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Bienveillance, rappelle-leur d'être soumis aux autorités et aux autorités d'être obéissants, Tite 3, versets 1 et 2, mais en même temps, vigilance et réaction. N'oublions pas la réaction de Pierre et des apôtres devant le Sanhédrin en Actes 5, 29. On voulait, les autorités religieuses, le Sanhédrin voulait nous interdire de parler du Seigneur Jésus. Et Pierre a cette formule admirable, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelques exemples pratiques. Nous avons le droit de vote. Faut-il voter? Faut-il refuser le vote? Dans certains cas, ne vaut-il pas mieux exercer cet acte civique pour exprimer son opposition à des abominations? Redéfinition de la famille, mariage pour tous, adoption pour les homosexuels. Ne pourrait-on pas éviter l'avènement d'un dictateur? Souvenons-nous qu'en 1933, Hitler a été élu démocratiquement, et nous savons ce que l'histoire en a fait. Soyons vigilants, usons peut-être de notre droit lorsqu'il s'agit de se faire envahir et dépasser par une islamisation radicale de notre société, en Belgique en particulier. La viande halal maintenant est imposée dans beaucoup de collectivités, port du tchador, de la burqa, suppression des symboles chrétiens dans les lieux publics, et récemment, je lisais une directive de l'éducation nationale où on a gommé toutes les appellations chrétiennes de nos congés scolaires. On ne parle plus de vacances de Noël, mais de vacances d'hiver. On ne parle plus de vacances de Pâques, mais de vacances de printemps. Autre problématique, peut-on faire de la politique? Peut-on s'inscrire dans un syndicat? Peut-on être éligible? Éventuellement, je dirais oui, dans le bon sens du terme politique, c'est-à-dire de s'occuper de la chose publique, en vue de l'amélioration de la situation de mes contemporains, étant une lumière là où le Seigneur m'a placé. Mais non, et radicalement non, si c'est pour assouvir une soif personnelle d'honneur, d'autant plus que le monde politique se révèle souvent un monde corrompu et entaché par les ingrédients habituels, sexe, pouvoir, argent. En la matière, il est très difficile de trouver le parfait équilibre, mais sachons bien délimiter nos rayons d'action personnels où le Seigneur nous veut fidèles. Marc 12, verset 17, « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Les besoins liés à l'existence, le travail, c'est à la fois la conséquence du péché, souvenons-nous, « Maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, mais en même temps, c'est un élément vital et essentiel nécessaire. » Luc 10, verset 7, « L'ouvrier est digne de son salaire. » Alors, comment nous positionner vis-à-vis du travail? Est-ce que nous sommes placés sur la terre pour travailler et vivre pour l'argent? Ou est-ce que l'argent nous sert tout simplement pour vivre paisiblement? Encore une fois, trouvons le parfait équilibre. N'ayons pas la réaction de celui qui veut toujours plus. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y assemblerai tous mes produits et mes biens, je dirai à mon âme, repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Et la sentence de Dieu ne s'est pas fait attendre, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Luc 12, verset 18. Il y a aussi l'autre alternative excessive que nous ne trouvons qu'en une seule occasion, dans le début du livre des Actes, c'est le partage collectif intégral, la mise en commun de tous les biens, ce que l'on a appelé le parfait communisme, une communion fraternelle sincère, efficace, profonde. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur, une âme, nul ne disait des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Acte 4, verset 32. Autre thème de besoin existentiel, les loisirs. C'est probablement dans ce domaine que Satan s'est le plus perfectionné depuis le milieu du XXe siècle. Il a développé toute une politique de loisirs afin de distraire l'homme dans un but avoué, l'éloigner de Dieu. Journaux, magazines, radios, télévisions, internet, vacances, sports, spectacles en tout genre, festivals, divertissements divers, dont plusieurs de mauvais goût, voire même carrément opposés à Dieu. On en revient à la société de l'Empire romain, Panem Erquincenses, du moment que les autorités fournissent au pauvre peuple du pain et des jeux, on ferme les yeux, mais en attendant, on ne s'occupe plus de Dieu. Question, quelle position le chrétien doit-il prendre face à toute cette panoplie de loisirs? Dans la musique, musique classique, musique moderne, music hall, festival, à qui donner la priorité? De qui ou de quoi pourrais-je devenir dépendant? Attention, toujours prendre ses distances quand on sent que le terrain devient glissant. Concernant les spectacles, la télévision, est-ce qu'elle prend, combien de temps prend-elle dans ma vie de tous les jours? Posons-nous la question. Le cinéma, le théâtre, les concerts, suis-je maître de mes choix? Ne m'impose-t-on pas ce que je vois? Où sont les limites acceptables? Dans le sport, une citation dans l'épître à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'apôtre le cite quand même. Il reconnaît implicitement une certaine petite utilité au sport. Le danger, c'est d'en faire un dieu. Les jeux de hasard, La réponse paraît évidente, à éviter à tout prix. Mais permettez-moi de nous titiller un petit peu. Qui n'a jamais participé à un concours, participé à une tombola, gratté un billet tentant, qui n'a jamais utilisé un jeu de cartes pour se distraire en famille? Par contre, et là, la barrière doit être nette et claire, s'engager sur le terrain de l'occultisme, jeu de hasard à tout niveau, nous paraît clairement interdit. Deutéronome 18, verset 10 et suivant, « Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur. » On voit souvent des réclames pour les pronostics, surtout en matière sportive à la télévision. « Ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » La chose est claire et nette. En ce domaine, il n'y a aucune alternative. Toute proposition pour révéler notre avenir est à proscrire formellement, en commençant par les horoscopes trompeurs de tous nos quotidiens. En effet, seul Dieu dirige notre vie. Il prend soin de nous quotidiennement. C'est d'ailleurs un des thèmes de la prière du Seigneur Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Puissions-nous toujours affirmer comme David, « Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi. Tu es mon Dieu, mes temps sont dans ta main. » En conclusion, sur le plan comportemental, il nous paraît, à nous chrétiens, très difficile de rédiger une règle qui soit valable et imposable à tous, à tout moment, en tout lieu. Je crois que là, nous devons faire appel à notre conscience personnelle. Nous devons chacun, chacune, conserver notre self-control en la matière avec un double but évident. 1. Ne jamais déshonorer Dieu. 2. Respecter notre Seigneur Jésus. 1. Ne jamais déshonorer Dieu. Lévitique 12, verset 2. Vous serez saints, mis à part, car moi, l'Éternel, je suis saint. 2. Respecter notre Seigneur. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Pour y arriver, dans chacun de nos comportements, demandons humblement au Seigneur de nous éclairer par son esprit. 2 Corinthiens 10, amenant toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus. Notre frère Élie en a dit quelque chose. La pensée, c'est quelque chose d'indomptable, quelque part. Vous êtes là en train de m'écouter, mais est-ce que vous m'écoutez réellement? Je ne sais. Où est votre pensée? Voilà, il faut toujours avoir ce self-control, de revenir dans le parcours et de dire au Seigneur, garde-moi dans ta pensée, conduis-moi par ton esprit. L'apôtre Pierre peut nous donner cette dernière exhortation, 1 Pierre 1, 13, 15, c'est pourquoi, ayant les reins sains de votre entendement, étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En terminant ce vaste sujet de notre comportement chrétien dans le monde, il me semble pour conclure qu'une attitude générale de bon aloi serait celle préconisée par Tite, et à mon avis c'est peut-être le verset de la parole de Dieu qui résume le mieux mon propos ce matin, Tite 2, versets 12 et 13, s'il est un verset pour lequel je vous autorise à ouvrir votre Bible maintenant, c'est celui-là. Tite 2, versets 12 et 13. « Car la grâce de Dieu nous enseigne que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Il y a là quatre attitudes fondamentales que tout chrétien doit inscrire dans son esprit et dans son cœur. 1. Sobrement, pour nous-mêmes, l'abus nuit en tout. 2. Justement, pour tous nos contemporains qui nous entourent, quels qu'ils soient. 3. Pieusement, vivant sous le regard de Dieu, la piété avec le contentement est d'une grande richesse, et 4, espérant dans l'espérance de la venue du Seigneur Jésus.